Maribine.
Le magazine qui explore,
qui voyage, qui découvre.
À l'heure où les mers et les océans se transforment en poubelles, Utopia a décidé d'agir en explorant le monde du plastique à la recherche de solutions durables. En 70 ans, les matières plastiques ont peu à peu envahi notre quotidien. C'est dans ce climat anxiogène que trois jeunes Finistériens, en quête de sens mais bien décidés à agir, se sont lancés un défi, Utopia, une mer nommée plastique. Le projet de Baptiste, Slimane et Paul consiste à mettre en relation des initiatives individuelles, associatives, privées et publiques, qui déjà luttent contre la pollution et la surproduction du plastique dans le monde entier. En septembre 2021, débutera pour eux une expédition qui durera 10 mois et fera escale dans 11 pays pour rencontrer ces acteurs de la transition écologique. Pour réaliser ce grand voyage, ils ont racheté un vieux gréement construit en 1971 et rebaptisé Aquarelle. Ce vieux gréement a besoin d'une grande toilette et de quelques menus travaux avant de prendre le large, et c'est dans cette optique qu'Utopia réalise actuellement un chantier participatif dans le port de Roscoff. C'est à cette occasion que Radio Évasion est allée à la rencontre de Baptiste, Slimane et quelques bénévoles de cette association, en compagnie de deux responsables de la mission jeunesse du conseil départemental, qui soutient ce projet ambitieux de jeunes Finistériens.
Il est déjà.
Il ventre. Il est assez grand.
Donc c'est l'aquarelle.
Aquarelle, ouais, c'est ça. Voilà. On voit, il y a le nom à l'arrière. Ouais.
C'est son nom d'origine ou c'est vous?
Non, c'est pas nous, c'est pas son nom d'origine non plus. À l'origine, ça s'appelait le Villecrose.
Le Villecrose.
Il vient du sud de Marseille, du coup, enfin d'Aigues-Mortes. Donc on l'a ramené d'Aigues-Mortes.
Donc là, vous faites la carène, vous avez encore à faire quoi là et dis-moi
non,
un peu.
On a à faire la carène, on va changer des éléments genre,
ouais.
Qui permettent de
tout neuf,
de
quoi.
Ouais, parce qu'il s'use avec le temps.
Ouais, d'accord.
On va remettre du mignon.
Donc je suis avec Baptiste et Slimane, les deux cofondateurs de l'association Utopia. Alors Utopia, déjà, c'est un très joli nom, mais c'est quoi en fait concrètement?
Utopia, c'est avant tout une idée, c'est la volonté d'essayer de comprendre le monde. Et c'est dynamique de manière un peu globale et personnelle. Donc, dit comme ça, c'est pas très parlant, mais nous, ce qu'on essaye de traiter, c'est une thématique d'actualité qui est la question des plastiques. On essaye de la comprendre dans sa globalité. On essaye aussi de comprendre les rêves qu'il a porté pendant toutes ces années. Donc le plastique, c'est fantastique, on l'a connu ça dans les années 70. Aujourd'hui, on est dans le plastique un peu le zéro plastique, cette mouvance là donc c'est un matériau qui a porté beaucoup de rêves, beaucoup d'espoir, et qui aujourd'hui apporte un peu le contraire. Et nous, on veut arriver à comprendre cette thématique de manière globale, comprendre les rêves qui se traversent, et après d'en retranscrire ça à la grande population, la majorité de la population qui aujourd'hui ne a du mal à percevoir toute l'ampleur de la thématique, car aujourd'hui le plastique, il est autant dans le numérique qu'il est dans l'agriculture, mais qu'il est autant aussi dans les emballages. Mais la question des plastiques n'est pas seulement une question d'emballage, c'est une question bien plus profonde. Et juste d'un petit détail là-dessus, c'est qu'Utopia, ça vient du latin, et c'est la même chose en singulier et au pluriel. Donc c'est une utopie, mais c'est aussi des utopies qui se rencontrent. Et c'était un peu cette volonté-là qu'on a voulu faire retranscrire à travers ce nom, Slimane.
Alors c'est quoi cette utopie justement, Slimane?
Bah concrètement, la structure Utopia en elle-même réalise une étude participative qui s'appelle l'Encyclopédie des plastiques. Donc on peut dire que Utopia, c'est un peu une structure hybride entre le think tank, donc le laboratoire d'idées citoyens, puisque n'importe qui peut venir nous rejoindre et apporter sa pierre à l'édifice. Aussi le média, puisque notre but c'est de faire transparaître toutes les problématiques plastiques au grand public, mais également aussi un petit peu quelque chose qui s'inspire d'une boîte de conseil, dans le sens où on va aussi être amené à sensibiliser des entreprises, des universitaires, à travers des packs de formation qui découleront du coup de notre étude citoyenne.
Voilà, on est en train de faire des formations, on va les tester l'été, on aimerait bien avoir 4 ou 5 sites de formation en partant, pour pouvoir les diffuser sur l'étape, avoir plus le temps de préparer les étapes sur place pour avoir plus de correspondants.
Quel genre de formation?
Là, c'est une formation sur le plastique, enfin, mais à l'histoire des plastiques, un peu. Genre, on arrive, on dit, bah aujourd'hui le plastique c'est quoi ? Donc, c'est tel marché, ça représente
c'est
ça,
vous,
etc.
Les formateurs.
Ouais, on crée le contenu quoi. Mmh. Et derrière, après, on fait l'histoire. Donc, quand sont arrivés les premiers plastiques ? Comment est-ce qu'après ça a été transformé dans l'armée ? Comment ensuite c'est parti dans la grande consommation ? Et comment ça s'est peu à peu intégré à toutes les industries jusqu'à changer les modes de production ? Et là, on finit, c'est la première formation. On enchaîne sur une deuxième sur le recyclage qui concernera plus l'aspect développement des techniques, de la collecte et de la gestion. Un développement des innovations aujourd'hui avec des nouveaux plastiques mais qui propose de nouvelles contraintes. Donc, première formation, c'est 1750-1990. La deuxième, c'est 1990 à 2021, enfin, aujourd'hui. Et la dernière, c'est prospective. Donc, comment le marché est en train d'évoluer, comment la réglementation est en train d'évoluer, la géopolitique mondiale, et comment est-ce qu'une entreprise un peu agile doit aussi s'adapter par rapport à ces changements. Et du coup, ça sera un cycle de 3 formations. Mais ça, après, ça, c'est une des formations. Nous, l'idée, c'est d'en créer d'autres aussi sur de la toxicologie. Ça, c'est la première qu'on sortirait. On aimerait bien avoir 2 ou 3 cycles prêts pour l'année prochaine. On produit nos contenus à nous, comme n'importe quel organisme de recherche le font. Donc, ça fait 2 ans qu'on étudie la thématique. Moi, je dis un travail de ouf. Nous, on prend la thématique globale et on dit... surtout qu'en plus, dans le domaine du plastique, 80% se font sur les sciences pures. T'as 20% qui se font sur les sciences molles, entre parenthèses. Et à 97% sur de l'économique. Donc nous, on intègre de la sociologie qui n'est jamais intégrée, enfin de l'histoire qui n'est jamais intégrée. Donc on apporte tout ce contenu-là qui aujourd'hui n'est pas à disposition et qui est éparpillé un peu partout. Et nous, on le réunit dans un seul milieu, dans des formats accessibles, quoi. Et donc là, c'est de l'histoire, mais après, on va toucher plus de la toxicologie, plus après de l'environnement, de l'aménagement du territoire, de la gestion des eaux. Et en fait, on fait du recyclage de formations qu'on a fait en interne. Là, on a déjà fait 5 formations en interne sur le matériau plastique, donc de la plasturgie. Sur le recyclage, donc l'aménagement du territoire, la gestion des déchets et les techniques de recyclage. Mais bon, les techniques de recyclage, c'est pas très intéressant puisqu'aujourd'hui, c'est pas très technique les techniques de recyclage parce qu'il faut du volume et généralement on coupe du plastique, on le fait fondre et puis voilà. Et le recyclage chimique, on n'est pas du tout prêt pour faire du volume. Enfin, toutes les autres techniques, on n'est pas du tout prêt à faire du volume. Donc c'est anodin d'en parler. Ouais. Ce qui est compliqué, c'est la collecte et la gestion. C'est compliqué de choper des bouteilles, de savoir exactement qu'elles soient, que les lots soient propres, etc. Ouais. Donc en final, c'est bien plus des questions de réglementation, de filière REP, donc responsabilité élargie du producteur, quelle est la législation. Au niveau de la mairie, on est face à, enfin, comment est gérée la gestion des déchets, est-ce qu'il y a une délégation totale de la compétence ou non. On a fait une formation en termes de dégradation du déchet, comment est-ce qu'on passe d'une bouteille à un petit morceau, c'est quoi les pressions qui sont faites sur le matériau solaire, donc thermique, mécanique, etc., etc. Après, on a fait une formation sur le déplacement du matériau, comment est-ce qu'il fait pour aller d'un point A à un point B, en fonction de sa taille, s'il est gros.
Mais après, vous visez le zéro plastique quand même. Vous êtes là-dessus ou pas ?
Non, on est sur résoudre la problématique. Dedans, il y a une solution qui est le zéro plastique, mais c'est impossible de faire zéro plastique. On n'a pas d'ordinateur, sinon on n'a pas de voiture, on n'a pas... On n'a rien. Ouais. C'est une utopie d'aller chercher le zéro plastique. On est incapable de savoir faire sans. Le plastique, c'est un polymère, plus une charge, plus un additif. Donc, c'est un polymère qui est l'élément, le matériau pur en termes chimiques. Et pris tel quel, par exemple du caoutchouc naturel, ça ressemble à rien à un pneu. Pour que ça en arrive à un pneu, il faut rajouter du soufre, il faut le faire chauffer à très haute température et il faut le diminuer. C'est la même chose pour n'importe quel plastique. On a d'abord un matériau de base à quel on rajoute des éléments qui vont lui donner sa propriété. Et quand on le recycle, ces éléments qui sont dedans, on ne peut pas les extraire. À moins sur certaines techniques de recyclage, ces techniques de recyclage, elles ne passent pas l'échelle aujourd'hui. Et avec la production de 560 millions de tonnes par an, on est incapable de gérer. Donc on n'est pas sur du recyclage, on est sur du décyclage, sachant qu'en plus le recyclage actuel, c'est peanuts par rapport à l'enfouissement et par rapport aux usines. D'autant plus que si demain il n'y a plus de plastique, on n'a plus d'usines qui fonctionnent. Parce qu'aujourd'hui, toutes les usines d'incinération en France, elles sont faites pour fonctionner, je crois que c'est dans les 10 à 20% de plastique. S'il n'y a pas 10 à 20% de plastique, elles ne fonctionnent plus. Donc on est dépendant du déchet. Il vient d'où le problème du recyclage ? Il vient de la chaîne atomique du matériau plastique. C'est des polymères. Polymères, c'est une suite de mêmes éléments. Ça vient de poly, plusieurs, et mère qui veut dire unité. Ça veut dire plusieurs unités. Donc en fait, le principe du polymère, c'est qu'on a toujours la même... Au départ, on a des monomères donc, qui sont des unités, qui sont des atomes, généralement de carbone liés à autre chose, et on va faire une réaction dessus, qui vont les amener se coller les uns aux autres, pour faire des longues chaînes qui ressemblent à des spaghettis, ou à des cheveux. Les cheveux, par exemple, ils sont très souples, mais si on les brosse pas, ils vont faire des nœuds.
Oui.
La propriété du plastique, c'est la même chose. C'est que c'est des longs spaghettis, des longs cheveux, qui sont enchevêtrés les uns sur les autres, et leur enchevêtrement crée leur résistance. Et plus ils ont d'enchevêtrement et plus ils ont de résistance entre eux, plus ils vont être solides et plus ils vont être difficilement recyclables. Et
du coup, donc là, vous avez pendant 3 ans travaillé uniquement la thématique du plastique.
Tout à fait.
Sous quelle forme ?
Mais par
le think tank.
Le think tank, tout à fait. Bien, par le biais de rencontres avec des acteurs du secteur, donc qui nous ont pas mal aidé à comprendre ce secteur qui est vachement opaque, et aussi de recherches en interne dans l'association pour découvrir donc des études qui ont déjà été menées ou autres, les mettre en rapport, essayer de comprendre des choses et vulgariser surtout ces études pour qu'elles soient compréhensibles à n'importe qui veut s'intéresser à la thématique.
Cette thématique-là, comment on en est arrivé à avoir une image globale? Au départ, quand on a traité la thématique, on se posait la question des plastiques dans l'océan. Et quand on arrive aux plastiques dans l'océan, c'est 80% des plastiques dans l'océan viennent de la Terre. Et donc s'ils viennent de la Terre, ils viennent d'où ? Et on s'est penché sur les chiffres de la demande en résine plastique en fait, au niveau de l'Europe. Et on est tombé sur du médical, du numérique, beaucoup d'industries, de l'agro-industrie, du tourisme, du BTP, enfin beaucoup de secteurs qui sont, on va dire, essentiels en tout cas à la vie actuelle. Si on enlève le plastique du jour au lendemain, on n'a plus de PVC, on n'a plus de vitres, on a beaucoup de difficultés à s'adapter. Et nous, c'est à ces questions-là, c'est comment et pourquoi on a utilisé ces matériaux. Et est-ce qu'ils ont encore leur place, est-ce qu'ils ont encore leur pertinence dans la société d'aujourd'hui? Et c'est pour ça qu'on souhaite avoir l'avis de tous, on en vient à discuter avec les différents acteurs qui sont traversés par ces questions-là, que ce soit autant des industriels que des militants, que des scientifiques, que des étudiants en devenir, et pour arriver à retranscrire un peu aujourd'hui, à travers cette encyclopédie, qu'est-ce qu'on sait autour de ce matériau, quelle est sa place dans ce matériau aujourd'hui en 2021, et qu'est-ce que ça augure par rapport au futur, et quels sont les changements qu'on devrait amorcer pour arriver à faire face à une crise qui a déjà commencé mais qui va s'amplifier dans les années à venir.
Donc en fait, et puis alors Utopia ne fait pas que travailler sur le plastique, il travaille aussi sur la culture du vieux gréement.
Oui, tout à fait. En fait, ce projet, il s'est construit autour d'une volonté d'expédition, une volonté de voyage, une volonté de découverte, qui se concrétise à travers le bateau de l'association et la préparation d'une expédition en voilier, qui est l'aboutissement des 3 ans de recherche sur la thématique du plastique. Et on a fait le choix de prendre un bateau qui est fort d'histoire et en plus qui est fait de matériaux nobles, donc un vieux gréement, c'est-à-dire un voilier traditionnel en bois, qui a nécessité des savoir-faire traditionnels et qui est porteur d'une histoire. Et donc voilà, c'est cette culture-là également traditionnelle, mais qui tend à renaître, qu'on essaye de partager et qui permet de donner aussi une autre vision, peut-être un peu plus rêveuse, un peu plus positive que les thématiques un peu lourdes, souvent chargées d'émotions, que sont les thématiques de la pollution et du plastique.
On va monter sur l'aquarelle, ce joli bateau.
Bienvenue à bord.
Et la table à cartes. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là?
C'est la salle de bain, là. C'est les toilettes.
Ah, il y a des toilettes.
Toilettes. Petit lavabo.
C'est bien foutu. Ah,
le carré est grand. Il y a combien de couchages?
En soi, il y a un lit double à l'avant, il y a un lit double à l'arrière.
Ah oui, quand même, il y a 2 cabines.
C'est exactement.
Ouais. Et là, tu peux dormir,
le carré. Et après, là, on peut descendre le carré, ouais. Et du coup, ça fait un lit double. Et là, il y a une couchette ici.
On peut être à 7, quoi.
Oui, après, en vraie navigation, il faut être... après, il faut compter les vivres par chaque personne.
Oui.
Ça, c'est des tankers. Donc, il y a un tanker ici,
mettre,
un tanker là.
L'eau.
On a 700 litres d'eau.
Ouais, c'est un bateau très traditionnel, en fait.
Ouais, c'est ça.
On l'a fait. On est parti de Martigues, dans le sud, à côté d'Aix-en-Provence.
Ouais.
Et on l'a remonté ici, du coup. En 21 jours, on a juste fait 3 escales. Donc, une à Gibraltar et 2 à Faro.
Et ouais, il remonte bien en près, tout ça. Il est
super. Il a une super allure. C'est un catch. Donc, il y a un mât arrière qui est plus bas que le mât avant. Donc, ça s'appelle un catch.
Ouais.
Et donc, il y a la grand voile au RIC. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça un vieux gréement. Parce que c'est une grande voile carrée et non pas Marconi triangulaire. Oui. Et à l'arrière, il y a la voile d'Artimon qui est elle Marconi, donc triangulaire, et qui permet en fait d'appuyer le bateau, ce qui lui permet de maintenir un cap sur certaines allures.
Donc,
par exemple, au pré, on peut ne pas l'utiliser, ne pas utiliser le pilote automatique. Grâce à ce jeu de 2 voiles, il va être bien réglé.
Cool. D'accord. Et il a quel âge? Il est quel âge?
Il est de 71.
Il a appartenu à un propriétaire qui a rajouté la casquette, là, juste au-dessus. C'est la cabine qu'on voit à l'extérieur, qui n'est pas d'origine.
Ah, d'accord.
Et donc, il l'avait préparé pour un tour du monde et malheureusement, il est décédé, avant de pouvoir le sortir. Donc il est tout en bois d'Iroko. En bois d'Iroko, c'est l'Iroko, c'est un bois exotique, imputrescible et très solide. Et le bois est apparent puisque il est pas, normalement les bateaux classiques sont peints d'une peinture et autres. Là ici il est verni, ce qui laisse entrevoir le bois. Et l'ancien propriétaire a rajouté des échelles sur les haubans, ce qui lui donne un aspect de bateau pirate.
Ouais, c'est ça, un bateau de corsaire. Alors donc, Aquarelle arrive au bout de 3 ans. C'est quoi le projet avec Aquarelle ?
Le projet, c'est donc déjà de mettre Aquarelle à contribution du grand public avant le grand départ, donc à travers des événements tels que la fête de la mer ou autre, un chantier participatif aujourd'hui, avec des jeunes qui vont venir découvrir les métiers du matelotage. Et par la suite, Aquarelle va nous permettre d'étendre un petit peu l'étude qu'on a déjà commencé à mener à travers une expédition autour de l'Atlantique qui va durer 1 an et durant laquelle on va aller dans 11 pays, donc rencontrer des acteurs locaux pour mener des actions de sensibilisation ensemble et essayer de comprendre également leurs thématiques. Et ça va nous permettre de mettre en parallèle nos problématiques européennes avec les problématiques du reste du monde. Donc à savoir qu'on va s'arrêter en Europe au début, ensuite on va descendre vers l'Afrique, notamment au Sénégal, chez qui on a des partenaires et avec qui on va étudier le traitement des eaux et des déchets. Ensuite on va traverser l'Atlantique vers l'Amérique latine, remonter vers l'Amérique du Nord pour revenir en France.
L'aquarelle va traverser l'Atlantique ?
Oui,
elle a déjà traversé la Méditerranée, contourné l'Espagne et remonté vers la Bretagne, donc elle est capable de faire ça. C'est un bateau qui est conçu pour le long cours, dans le sens où il y a d'énormes quantités d'eau qui sont stockables, ainsi que de gasoil. Et donc, comme disait notre ancien skipper et ami marin, c'est un bateau qui est fait pour subir la mer, tandis que maintenant, les bateaux de maintenant sont conçus pour justement écraser la mer. Mmh. Donc ça, c'est un bateau qui est robuste et qui a une grande capacité de stockage et d'endurance.
Et donc dans chaque pays, il va y avoir des étapes. Et là, il va se passer quoi sur les étapes ?
Alors concrètement, on va arriver. Tout d'abord, on a une volonté de sensibilisation et partager des outils pédagogiques qu'on a préalablement construits en France, qui sont en fait la retranscription des études qu'on fait pour les rendre accessibles au plus grand public et à des publics différents, que ce soit des collèges, des lycées ou du supérieur. Ensuite, l'objectif, c'est de déterminer quelle est la problématique locale liée à une thématique clé. Comme disait Slimane, donc l'aménagement du territoire et la gestion des déchets au Sénégal, on sait aujourd'hui en France que les déchets sont gérés par l'intercommunalité. Il y a toute une réglementation, à la fois sur le terme de déchet, qu'est-ce que c'est qu'un déchet, qui gère ça, qui en a la responsabilité. Il y a des institutions qui viennent par-dessus pour vérifier que les règles sont faites. Ces règles-là, elles sont propres à la France. Derrière, elles sont aussi encadrées par l'Europe. Mais quand on arrive dans des pays comme le Sénégal, où on peut arriver dans des pays comme le Maroc, ou tous ces autres pays, les règles sont différentes. Et on a peu d'informations sur quel est le panel aujourd'hui de cette gestion, en tout cas des déchets, pour ce qui est des déchets, là-bas. Et un autre exemple, par exemple, c'est à Cuba. Cuba, on va étudier la thématique de la santé et des pratiques médicales. Et eux, qui ont subi un embargo sur le pétrole, ils bénéficient de moins de plastique. Et pourtant, ils ont un système de santé qui est extrêmement performant, avec des techniques très différentes, mais ils sont très performants. Et l'idée, c'est d'aller référencer leurs pratiques médicales et comment est-ce qu'ils font pour guérir la même maladie que chez nous et avoir le même résultat, mais avec moins de plastique. Et aujourd'hui, on n'a aucune étude à disposition. On travaille avec des acteurs européens qui, eux, souhaitent avoir des informations là-dessus. Et nous, on souhaite leur offrir pour que derrière, ça puisse bénéficier et qu'il y ait des bons échanges de savoir-faire qui se fassent. Autant ce que nous, on a pu expérimenter par rapport à eux et ce qu'eux ont pu expérimenter par rapport à nous. On veut y aller avec un œil neuf.
Donc c'est très intéressant parce qu'en fait, oui, comme tu disais, c'est vraiment une vision globale du plastique. C'est pas seulement le zéro déchet. Voilà. C'est comment on traite le déchet, c'est quoi un déchet. Et est-ce qu'on peut travailler aussi bien sans cette ressource plastique, quoi ? Donc en fait, vous y allez plus dans un double mouvement, quoi. Vous allez proposer, vous, des choses qui se font ici, mais aussi recueillir ce qui se fait ailleurs.
C'est ça, exactement. Pouvoir référencer tout ce qui est solution efficace pour lutter contre la pollution plastique et la référencer, encore une fois, dans notre étude pour pouvoir en faire que le plus grand nombre puisse en profiter.
Il y a un aspect qui est intéressant qu'on avait discuté, c'est qu'en fait on vient un peu avec un œil d'anthropologue. En prenant le matériau plastique comme étant notre sujet plutôt que de prendre n'importe quelle ethnie, quel est le rapport aujourd'hui de la société monde par rapport à ce matériau qui s'est imposé en 70 ans et qui aujourd'hui pose des problèmes et en plus pose des problèmes dans la résolution, donc pour la diminution, et ce n'est pas qu'une question économique, c'est des questions sociales, c'est des questions d'organisation, c'est des questions d'infrastructure, c'est beaucoup de questions qui sont très complexes et qu'il faut un jour ou l'autre aborder avant de traiter de solutions. Parce que ces solutions, elles passent par de l'investissement, ces solutions, elles passent par de la réglementation, ces solutions, elles passent par un ensemble de leviers, et il n'y a pas une solution qui est bonne. Et en plus, il faut prendre en compte les réalités culturelles, la topographie, tous ces éléments-là, la pauvreté d'un pays, tous ces éléments-là.
Et alors le départ, c'est pour quand ?
Bah, le départ, il est prévu, si tout va bien, en septembre 2021. Donc c'est
septembre 2021 ?
Si tout va bien, ouais, tout à fait. Donc c'est pour ça qu'on fait le carénage aujourd'hui et donc là il y a forcément le contexte Covid qui entre en jeu, donc on espère que ça va pouvoir se faire et voilà, donc on met tout en place pour que ça se fasse en tout cas.
Et leur retour septembre 2022.
C'est ça, exactement, ça va durer un an, donc la navigation va prendre une importance un peu moindre par rapport aux actions qu'on va mener sur place. C'est pour ça que ça dure un an. En soi, une transatlantique, si on voulait, on pourrait la boucler en deux mois. Mais voilà. Nous, on a décidé de prendre le temps sur place pour vraiment aller en profondeur dans nos sujets et avoir le plus d'impact possible auprès des locaux, des associations, des partenaires qu'on va rencontrer sur place.
Toi, même là où c'est craquelé, là. Tout ça, là, ça dégage. Déjà, les passe-coques, c'est pas du plastique, ça, c'est bien. Il faudra refaire le joint autour.
J'enlève le bleu.
Ouais.
Je peux.
Et tu fais quoi là ?
Alors là, ça c'est un passe-coq. C'est par là que l'eau rentre ou sort. Ouais.
Ah oui.
Ton pneumatique là, il a.
Ah ouais, ouais. Oh, trop bien.
Il est arrivé.
Ah trop bien.
Faut le compresseur ?
Compresseur et le truc à pneumatique.
Ah, et là, du coup, on va refaire l'étanchéité entre le passe-coque et la coque, justement.
D'accord.
Là, on voit que le joint, il est abîmé.
Ah oui.
Du coup, on va le remettre bien. Je me demande si ça n'a pas été directement posé.
Directement avec le truc à
ventouler. Ouais. Je peux continuer à gratter autour, là, en faisant gaffe de ne pas trop abîmer le joint existant.
Et toi, Charles, tu donnes un coup de main, t'es bénévole à Utopia ?
C'est ça.
Ouais, ouais, et t'as travaillé sur l'Hermione, c'est ça ?
J'y travaille toujours.
Toujours ? Ah ouais ?
Ouais. Voilà. Ouais.
Donc tu t'y connais un peu, quoi ?
Bah oui, un petit peu, du coup, je fais ça beaucoup. Donc je leur donne un coup de main, là, pour entretenir la carène d'un bateau en bois.
Que tu connais bien.
Voilà, ouais.
La ressource dont Utopia avait besoin, c'est toi.
Et ben entre autres.
C'est un beau projet, ça fait se rencontrer des gens.
Bah ouais, on a plein d'amis, enfin de divers et variés avec tous des projets et ça c'est cool. Notamment Precious Plastic, qui donc Lola a fait partie de ça et c'est un réseau international de recycleurs locaux. Et nous on s'inscrit dans ce mouvement là. Ça fait mélanger des mondes qui n'ont pas l'habitude généralement de se mélanger.
Ouais, ça, parce que là, tu mélanges deux thématiques, c'est exactement. La dépollution du plastique et la culture du vieux gréement.
Exactement, c'est des mondes, et pourtant c'est des mondes avec des savoir-faire traditionnels. Enfin, il y a à la fois des savoir-faire traditionnels, travailler le matériau bois qui est un matériau noble, et de l'autre côté aussi tout cet aspect-là des pollutions qui est assez intéressant. Et les deux sont tout autant passionnants l'un et l'autre, et les deux mettent beaucoup de temps, enfin nécessitent beaucoup de connaissances et beaucoup d'expertise. Donc au moins on a de quoi apprendre. Quand on est curieux, c'est bien.
Ouais. Il y aura qui sur le bateau ?
Donc il y aura Slimane et moi-même, il y aura Charles, le skipper de l'association. Derrière, il y aura également une personne de l'équipe vidéo, des personnes de l'équipe vidéo qui tourneront. Tous les 6 mois ou tous les 3 mois, on n'a pas encore bien déterminé, plus des invités de temps en temps
sur certaines
étapes, ouais. Qui viendront, donc que ce soit des personnes, des bénévoles de l'association ou des acteurs extérieurs comme Surfrider ou des membres de la communauté Precious Plastic Et voilà. Et après, derrière, sur les étapes, on invite également donc notre communauté à pouvoir nous rejoindre sur des étapes pour participer à des actions, si jamais ils le souhaitent, pour créer un événement global. Après, on a une contrainte qui est le bateau. Et ça, on peut pas l'étendre, donc on a cette difficulté.
Pour une question de sécurité, de sécurité et de confort également, sur les navigations, on limite à 5 le nombre de personnes sur le bateau. Par contre, après, dès qu'on arrive à terre, nous on est 25 bénévoles, on a des partenaires, donc l'idée c'est vraiment de rassembler toute cette communauté sur place. Et donc il y aura effectivement du monde à terre, mais un peu moins de monde sur le bateau.
Alors comment on fait pour vous suivre là? On va pas vous voir pendant un an, on fait comment?
Alors on est présent sur Facebook, LinkedIn, Instagram, on a un site internet qui s'appelle utopia-earth.org et donc on est disponible. Si vous voulez nous contacter, vous nous envoyez un MP ou un mail directement via le site internet.
Bah super, bah bon vent, puis on se retrouve en septembre 2022, vous me rencontrez?
Tout à fait.
Ouais, écoutez, ouais. Hein.
Merci Baptiste, merci Slimane.
Merci à vous pour l'invitation.
Merci à vous.
Pas de soucis.